Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme de ce samedi 24 janvier 2026. Vous êtes avec Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Et comme tous les samedis, on commence ce programme avec la rétrospective du jour. Que s'est-il passé un 24 janvier ? Réponse tout de suite. Notre rétrospective aujourd'hui nous emmène en 1984, lorsque l'informatique bascule dans une nouvelle ère. Il y a 42 ans, jour pour jour, Steve Jobs présentait le Macintosh, un ordinateur conçu pour être simple, intuitif et accessible à tous. Retour sur l'histoire de ce projet audacieux à l'époque avec Ileana Guillochon.
Et si une vision audacieuse, un projet un peu fou et une équipe qui n'avait rien à perdre avait réinventé notre rapport à la technologie et plus largement le monde d'aujourd'hui? Ça s'est passé le 24 janvier 1984, Steve Jobs présente le Macintosh, un ordinateur qui révolutionne l'informatique en rendant la souris et l'interface graphique accessibles au grand public. Une antiquité technologique qui représentait l'avenir de nos ordinateurs. Alors revenons sur l'incroyable histoire du Macintosh 128K.
On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984.
Le 22 janvier 1984, pendant le Super Bowl, une publicité marque les esprits de 96 millions d'Américains. Le clip n'est diffusé qu'une seule fois, réalisé par le célèbre cinéaste Ridley Scott. Elle montre un monde sombre, inspiré du roman 1984 de George Orwell. Une annonce prometteuse devenue l'une des campagnes visuelles les plus célèbres et qui montrait une technologie prête à changer l'informatique traditionnelle pour toujours.
L'arrivée massive dans notre vie quotidienne des microprocesseurs, c'est-à-dire de tout petits ordinateurs par la taille, mais aux étonnantes possibilités, cette arrivée va modifier notre façon de vivre.
Au début des années 1970, les microprocesseurs font leur apparition. Intel commercialise le premier en 71 et c'est le point de départ de l'aventure des ordinateurs personnels, les premiers PC. Dans les années 80, les ordinateurs n'ont rien à voir avec ceux que l'on connaît aujourd'hui. Leur utilisation est compliquée, les machines n'affichent que du texte et se commandent à l'aide d'instructions trop complexes pour le grand public. Au départ, le projet semble impossible. En 79, le Macintosh n'est qu'une idée de Jeff Raskin. C'est un homme aux multiples talents, il est mathématicien, professeur, musicien, aéromodéliste, juste ça. Il rejoint Apple en 78 comme 31e employé. Il connaissait déjà Steve Wozniak et Steve Jobs, rencontrés dans le fameux garage où Apple avait commencé. Après la sortie de l'Apple II en 1977, un ordinateur révolutionnaire qui marque l'entrée d'Apple sur le marché, Jeff Raskin commence à rêver d'un ordinateur plus simple à utiliser. L'entreprise Apple prépare alors le successeur, qui est donc Apple III, mais la vision de Raskin, qui a en tête une machine radicalement différente, ne convainc pas encore la direction. Mais l'idée reste vivante et Jeff Raskin parvient à lancer son projet. Il rassemble une équipe pour créer le Macintosh. Le but ? Que l'informatique soit simple, accessible à tous et moins chère, conçue par le peuple et pour le peuple. À ce moment-là, Steve Jobs se concentre sur un projet beaucoup plus ambitieux, le Lisa. Sauf que ses accès de colère avec les ingénieurs finissent par lui coûter sa place dans l'équipe. En 1982, alors en pleine conception du Macintosh, Jeff Raskin entre en conflit avec Steve Jobs, ce qui l'oblige à quitter Apple. 2 ans plus tard, son invention sort, sans lui. La petite équipe d'ingénieurs et de programmeurs passionnés est alors sous la direction du jeune Steve Jobs, chacun avec un rôle bien défini et dans des bureaux modestes.
He's a maniac. He's a maniacal genius. His job is to stir up everything. He's a muckraker in the classic sense of the word. He will not leave anything alone. He will not allow inadequacy or compromise to exist.
Jobs veut reprendre certaines idées du Lisa, icône, fenêtre, souris, même si officiellement, Apple n'a pas inventé ce concept d'interaction. L'équipe travaille sans relâche, avec une liberté créative totale, et un Steve Jobs très impliqué. Il n'a qu'une seule idée en tête, créer le meilleur ordinateur personnel jamais conçu.
Une lutte acharnée se poursuit chez les fabricants de micro-ordinateurs pour dominer ce marché en très forte expansion. IBM supplante maintenant Apple dans le domaine de l'ordinateur personnel, mais Apple ne s'avoue pas vaincu et vient de répliquer avec un nouveau type d'ordinateur, le Macintosh.
C'est finalement le 24 janvier 1984 que Steve Jobs dévoile enfin le fruit de leur travail, dans une présentation presque théâtrale. Le Macintosh 128K est révélé. Boîtier beige, un style plus épuré, un écran noir et blanc d'environ 9 pouces, c'est le premier ordinateur personnel de la famille des Mac. Costard sombre, chemise et nœud papillon, Steve Jobs tient sa promesse du Super Bowl et en fera une démonstration en direct.
Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. And accustomed as I am to
L'écran montre alors traitement de texte, dessin, jeu, musique, voix robotique. Le Mac semble avoir plus de 10 ans d'avance sur son temps. Doté d'une interface graphique, un menu déroulant une corbeille, c'était intuitif et facile à manier. Il est vendu à $2,495, l'équivalent de 6 700 € aujourd'hui. Un sacré investissement et un prix bien au-delà de ce qu'avait imaginé son inventeur, Jeff Raskin. Il faut le préciser, la situation est critique, car depuis l'arrivée du IBM PC en 1981, l'Apple II perd du terrain et les échecs de l'Apple III et du Lisa, trop chers et peu fiables, mettent la compagnie en danger. À ce moment-là, tous les regards se tournent vers le Macintosh, la seule alternative face au géant IBM. Malheureusement, le succès ne sera que de courte durée. Le Mac est certes révolutionnaire, mais il a ses limites. Il est lent, cher, manque de logiciels et reste en noir et blanc, alors que ses concurrents, et même l'Apple II, affichent déjà de la couleur. D'autres innovations et succès feront leur entrée par la suite, mais c'est l'iMac, lancé quelques années plus tard, qui sauvera Apple de la faillite et ouvrira la voie au succès mondial de l'iPhone.
De quoi redonner aussi des couleurs à ces fans historiques du Mac, désespérés de la quasi-hégémonie du standard PC ces dernières années.
Malgré tout, le Macintosh restera « the most successful failure » d'Apple. Si aujourd'hui, nos ordinateurs ont tous une souris ou un pavé tactile et leurs écrans montrent fenêtres, dossiers et icônes, on le doit en grande partie au Macintosh.
Je rêve, pense-moi pour voir. J'avoue, j'ai du mal à le croire. C'est moi qui chante.
C'était la chanteuse Clara Luciani avec son titre « Nu ». On marque une très courte pause, messieurs, dames. On se retrouve dans un instant et on va parler de la rentrée qui a lieu dans quelques jours. La rentrée, c'est l'occasion de faire le point sur les programmes à venir. Alors, direction Sydney pour savoir ce que nous réserve l'Alliance française.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Il est temps de parler de la programmation de l'Alliance française de Sydney en cette rentrée 2026 avec Monsieur Denis Morandet, le directeur de l'Alliance française de Sydney. Monsieur Morandet, bonjour et bienvenue sur SPS Audio.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Nous nous entraînons en cette rentrée 2026. Parlez-nous de ce qui est prévu pour cette rentrée, je dirais pas comme les autres, parce que c'est une toute nouvelle année.
À l'Alliance, il y a toujours deux aspects, hein. Il y a l'aspect éducatif et l'aspect culturel. L'aspect éducatif est déjà bien lancé puisque nous avons eu la rentrée des adultes la semaine dernière. Une très très bonne rentrée, nous avons plus de 700 étudiants. Nous avons lancé des nouveaux cours sur les régions de France, sur l'univers de Chanel, la mode sous Marie-Antoinette. Donc les cours ont très bien fonctionné, les étudiants ont répondu présents. Et puis sinon, il y a tout le pendant culturel, je dirais, avec différents événements, notamment le 5 février, le premier philo bistrot de l'année.
Et philo bistrot cette année, qu'est-ce qu'il y a de très particulier? Je crois que vous avez la participation d'une cinéaste ou d'un cinéaste australien.
Tout à fait. Nous allons accueillir Samantha Lang. Donc Samantha est une habituée de l'Alliance, puisque une amie de l'Alliance, puisqu'elle était ambassadrice du Alliance française French Film Festival il y a quelques années. C'est une réalisatrice australienne renommée et donc elle viendra le 5 février à partir de 18h30 pour discuter un petit peu de cinéma australien et français avec notre présentateur Olivier Vogetta. Et philo bistrot, donc différents sujets, liberté artistique, la narration, les réalités du cinéma aujourd'hui, cinéma indépendant, cinéma commercial. Donc une soirée qui promet d'être riche en cinéma et en culture.
Et une soirée qui tombe au point, parce que dans quelques jours, un peu plus tard, c'est en fait l'Alliance Française Film Festival, l'un des festivals du film français le plus grand au monde, me dit-on.
Oui, tout à fait. Alors l'Alliance Française French Film Festival, c'est le festival du film français le plus grand, le plus important hors de France. Donc il est organisé dans toute l'Australie. Hein. L'année dernière, on a atteint les 200 000 spectateurs sur 5 semaines. Donc c'est un énorme événement. À Sydney, il démarrera déjà le 5 février avec la mise en vente des billets. Et ensuite, le 3 mars, avec l'Opening Night Gala, donc l'opening national, qui cette année sera très prestigieuse. Nous allons très prochainement annoncer une jolie surprise sur nos réseaux sociaux. Donc, si vous ne nous suivez pas encore sur Facebook et Instagram, c'est le grand moment de nous rejoindre. Mais voilà, une surprise prévue pour le 3 mars et l'Opening Night Gala.
Donc avec, je suppose, un grand réalisateur ou un grand artiste, un grand acteur venu directement de France, je crois.
Le mois de février va être riche en révélations, donc je ne vais pas gâcher la surprise maintenant. Mais voilà, nous avons une réalisatrice australienne, une star montante, qui est l'ambassadrice de notre festival cette année. Et nous allons avoir une programmation, encore une fois, très très riche, quasiment une quarantaine de films, plus de 6000 séances à travers toute l'Australie, donc il y en aura pour tous les goûts pour cette nouvelle édition de l'Alliance Française French Film Festival.
Un festival qui connaît de plus en plus de succès d'ailleurs, parce que les Australiens raffolent du cinéma français. Mais aussi, pas seulement du cinéma français, mais aussi de la culture et de la littérature française et francophone. Et vous avez, en ce mois de janvier, je crois, aussi un book club.
Tout à fait. Alors c'est vrai que les Australiens sont extrêmement francophiles et c'est une grande chance pour les Alliances et un vrai plaisir. Et donc le 27 janvier, pour nos membres, nous organisons un book club. Autour du roman Petit Pays de Gaël Faye. Donc c'est un roman en partie autobiographique. Il évoque son enfance au Burundi, sa vie avec une identité un petit peu multiple entre différentes cultures, des racines rwandaises, et puis une vie qui a été très riche. Hein. Gaël Faye, il était trader à Londres, il a été rappeur, il a été romancier, il a publié donc chez Grasset. Donc voilà, on va étudier un petit peu et discuter de ce livre le 27 janvier à l'Alliance.
Est-ce que l'auteur sera là pour que les gens puissent acheter des copies et venir les faire signer par l'auteur?
Il y, Yael Fay ne sera pas présent, mais par contre, si vous êtes membre de l'Alliance, vous pouvez assister à la discussion au Book Club à partir de 13h30. Donc c'est vraiment un événement qui est réservé à nos membres le 27 janvier.
Et pour les fines bouches, vous avez une boulangerie. J'ai habité Sydney pendant très très longtemps. Et avant mon départ, il n'y avait pas encore cette boulangerie Whole Grain. Est-ce qu'il y a une nouveauté pour 2026, juste à tout hasard par rapport
Alors, pas pour 2026. Il y en a très souvent parce que Whole Grain Bakery est un partenaire très actif. Oui. Ils sont vraiment très créatifs. Leur spécialité, c'est le sans gluten. C'est relativement rare dans le CBD de Sydney, donc ils ont un vrai public d'amateurs, d'amatrices et de passionnés. Mais ils sortent régulièrement des nouveautés, donc on avait des chouquettes qui étaient délicieuses. Et là, ils ont sorti des cinnamon scrolls qui sont tout aussi savoureux. L'avantage avec eux, c'est que oui, toutes les 5-6 semaines, il y a des nouveautés en vitrine, donc... Il n'y a pas de lassitude pour les gourmands.
Oui, c'est une occasion de pouvoir visiter l'Alliance. Voilà, Monsieur Morandé, en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous présenter la programmation de l'Alliance française de Sydney en cette rentrée 2026.
Ben, c'était un grand plaisir. Je termine juste avec une toute petite note. Nous allons organiser une nouvelle série d'événements qui s'appelle « French Success Stories ». Et l'objectif, c'est de mettre en avant des projets franco-australiens plutôt inspirants et donc de célébrer tous ensemble ces success stories qui rapprochent les cultures. Suivez-nous sur nos réseaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour être au courant des dernières nouveautés. Et si vous êtes sur le site, si vous êtes membre ou sur la newsletter, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Et aussi, ne manquez pas de nous parler des différents projets pour que nous puissions aussi en parler davantage à nos auditeurs sur SBS Audio.
Avec grand plaisir. Voilà. À très bientôt.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi. C'est vous, moi. Si vous me cherchez, je suis ailleurs. Je suis loin, 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 loin de vous. Oubliez-moi.
C'était Aurel San, bien sûr, avec sa chanson Ailleurs, titre de son dernier album La Fuite en Avant, sorti en 2025. Que vous réserve le mois de janvier sur SBS On Demand? On vous a fait une sélection des sorties cinéma et séries du mois de janvier. Voici la première partie de notre sélection. Watson SBS On Demand. Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenu. Watson SBS On Demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes-annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver au mois de janvier? C'est parti! On commence avec le seul documentaire de notre sélection mensuelle, ça s'appelle Polyamour, Polyamory en anglais. C'est une série documentaire créée par un thérapeute. Le polyamour, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, c'est la philosophie, la pratique d'aimer et d'être en relation amoureuse avec plus d'une personne en même temps, de manière totalement consentie et éthique. C'est donc le sujet de sa série documentaire originale. Il s'appelle Christophe Magnette, ce thérapeute. Il est thérapeute en relation d'aide et il est lui-même polyamoureux et recherchiste et co-scénariste de la série. Il s'est associé à Urbania Media pour produire ce projet plutôt ambitieux et assez novateur. L'objectif de cette série, de ce documentaire, eh bien, c'est de faire en sorte que le polyamour soit reconnu par le grand public et déconstruire les préjugés qui lui collent à la peau. Alors pour cela, dans le documentaire, ils ont donné la parole à des personnes polyamoureuses de tous horizons qui partagent leur expérience, leur vécu, leur vision du polyamour. Et en regardant ce documentaire, eh bien force est de constater que nous sommes invités à remettre en question nos propres croyances et préjugés sur l'amour, la fidélité, la jalousie, le sexe ou même tout simplement le bonheur. Toujours dans le thème de la sexualité, il y a le film L'amant double, Double Lover, sorti en 2017 et réalisé par François Ozon avec Marine Vatch, Jérémy Régnier et Jacqueline Bisset. C'est l'histoire de Chloé, une jeune femme fragile qui tombe amoureuse de son psychothérapeute, il s'appelle Paul, et quelques mois plus tard, ils s'installent ensemble, ils sont tous les deux amoureux, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.
Chloé, est-ce que tu voudrais m'épouser ?
Enfin, tu viens me voir.
C'est étrange, je te connais tout de moi et... Mais moi, j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Que tu me caches des choses. Et j'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu veux pas en parler ?
Si, c'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est tout.
J'ai besoin de savoir maintenant. Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille ?
Tu sais très bien que mes parents vivent aux États-Unis.
Pourquoi tu me mens ?
Mais je te mens pas, Chloé.
Je t'ai vu en sortant du musée.
Mais tu t'es trompée. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait.
Tu es un monstre.
Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre. Mais que des êtres humains.
Il formait un couple si parfait. Alors est arrivé ce qui est arrivé.
Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur, me faire du mal. Je sais tout. Qu'est-ce que tu fais ?
Nous avons un invité, je crois.
Voilà, L'amant double, c'est un thriller psychosexuel sur la complexité humaine. C'est ce qu'explique le réalisateur François Ozon.
Ce qui m'intéresse en général, c'est la complexité humaine. Je pense qu'on n'est pas fait d'un seul bout de bois. Voilà, on est complexe, on est multiple, on a plusieurs personnalités. Alors tout le monde n'est pas comme le personnage de Shyamalan dans Split, mais souvent nous, on a des dualités en soi. On a besoin d'une double vie. Voilà, donc c'est des choses qui me semblent naturelles et qui sont intéressantes à explorer cinématographiquement parce que ça oblige à raconter des choses en miroir avec des effets de symétrie. Et dans ce film, c'était vraiment l'idée de jouer entre les deux univers des deux jumeaux et de montrer que cette jeune femme est complètement perdue au milieu d'eux et que le spectateur s'identifie à elle, que lui-même aussi soit un petit peu perdu à travers ces deux personnages. Et j'ai eu l'intuition que ça pouvait faire un thriller érotique, psychosexuel même, comme disent les Américains.
L'amant double est inspiré du roman Lives of the Twins de Joyce Carol Oates. Il s'agit du 17e long métrage de François Ozon et il a sorti L'amant double après avoir sorti France. On vous parle à présent d'un autre duo d'acteurs qui porte magnifiquement un film, c'est Benoît Poulvord et Laetitia Casta. Ils jouent dans le long métrage Une histoire d'amour, Tide en anglais, réalisé par Eliane Filière. C'est l'adaptation du roman Sévère de Régis Joffray, directement inspiré d'un fait divers survenu en février 2005. Souvenez-vous, l'assassinat du banquier Edward Stern par sa maîtresse, lors des bas sadomasochistes. On sort du côté thriller, mais on reste dans le côté érotique avec la comédie Iris et les hommes, ou Iris and the Men en anglais. Ce film met en avant l'irrésistible Laure Calamy. Il est réalisé par Carole Vignal. C'est la deuxième collaboration des deux femmes après Antoinette dans les Cévennes qui avait frôlé les 800 000 entrées au cinéma à sa sortie. Iris et les hommes, cette fois, c'est l'histoire d'une femme à la vie parfaite, un mari, des enfants, un métier, mais qui a envie de se sentir désirée, de redécouvrir les frissons, de faire l'amour. Elle va alors s'inscrire sur une appli de rencontre et se faire prendre au jeu du désir.
Il se passe plus rien entre nous. Au lit.
Oui, ça suffit.
Vous avez pensé à prendre un amant ? Tinder. Enfin, ça ou autre chose. Il y en a même une qui est spécialisée pour les gens mariés.
Est-ce que vous pourriez me prendre en photo, s'il vous plaît?
C'est pour Doctolib. C'est obligatoire maintenant.
Ah bon?
Bah oui.
Alphonse Carnezon.
C'est qui?
Le bon coin.
C'est incroyable, hein, les gens, c'est vraiment comme s'ils achetaient un appartement. Ils veulent tout savoir.
T'es mariée depuis combien de temps?
16 ans.
Je suis divorcée.
J'ai pas l'intention de quitter mon mari.
Quand on a commencé à reconnecter avec son désir, on peut pas revenir en arrière. C'est comme des portes qui s'ouvrent. C'est infini.
J'ai envie que tu m'embrasses.
Je vais devoir m'absenter demain. Vous rappelez les patients et vous leur trouvez d'autres rendez-vous?
Les patients, il y en a, ça fait 3 fois que j'ai des places. J'ose plus les appeler, hein.
Faut apprendre à dire oui. Découvrir ton corps, découvrir d'autres corps, embrasser. Oui. Jouir. It's raining men.
Hallelujah, it's raining men. De toute façon, c'est hors de question. Je ne céderai plus sur mon désir.
It's raining men. Au plaisir.
Carole Vignal, la réalisatrice, dira en interview que l'idée du synopsis lui a été soufflée par une amie et qu'elle s'est ensuite elle-même inscrite sur une application de rencontre pour voir comment ça se passe. Et quelle ne fut pas sa surprise, dit-elle, quand elle a réalisé qu'il s'agissait là d'un monde totalement à part qu'elle a immédiatement voulu mettre en scène ensuite.
Il a plu dans la chambre, est-ce que c'était mes larmes ou juste un bout de toi qui part? Je crois que j'ai les mains qui tremblent, je cherche un fort. Dis-moi que tu m'aimes encore là, oui, pour encore. Et moi j'aime quand nos cœurs se dévorent. Je sais qu'on s'aime encore.
C'est Louane qui chante la chanson La pluie. On vous propose à présent une rencontre avec le directeur de l'ONG Care Vanuatu qui nous parle du prix qu'il vient de recevoir, une médaille de bronze, et des initiatives de logements résilients face au changement climatique sur l'archipel.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Sébastien Fesneau, qui est le directeur de Care Vanuatu. Bonjour et bienvenue sur les ondes en Australie.
Bonjour et merci de votre invitation.
On va parler de Care Vanuatu, qui a reçu le prix mondial de l'habitat, une médaille de bronze.
Ça a été confirmé hier soir lors de l'annonce officielle, lors de la cérémonie qui était organisée par World Habitat.
Donc c'était à Londres et c'est dans le cadre de l'initiative de logement résilient face au changement climatique. Parlez-nous un petit peu des raisons de cette récompense.
Alors en fait c'est un concours annuel qui est lancé par World Habitat et auquel CARE a participé pour proposer un projet qui s'appelle Build Back Safer, on pourrait traduire par reconstruire mieux et sûr, dans le cadre d'une réponse en 2023. Kevin et Judy, qui ont affecté le Vanuatu, et pour lequel CARE a proposé une approche un petit peu innovante pour la reconstruction des abris face à ces cyclones.
Alors comment est-ce que le passage de ces cyclones tropicaux, Judy et Kevin, en 2023, ont affecté le Vanuatu? Il y a eu, j'imagine, une grosse destruction des récoltes, des routes, des maisons.
Les cyclones tropicaux sont des phénomènes annuels au Vanuatu, qui est un des pays les plus à risque au monde en termes d'aléas climatiques et naturels, en termes de cyclones, tremblements de terre, éruptions volcaniques. Et ce genre d'événements donc, qui se produisent en termes de cyclones chaque année peuvent avoir un impact destructeur, notamment dans les communautés rurales.
Quelles ont été un petit peu les actions menées par la communauté locale?
Alors les actions en fait sont menées à différents titres puisque CARE est présent au Vanuatu depuis 2008 et en fait on accompagne les communautés et les autorités par des actions de préparation et réponse aux urgences. Donc il y a souvent des mécanismes qui sont faits en termes d'évacuation, de protection au moment de ces événements. Mais c'est vrai que pour les réponses en termes de reconstruction des abris ou des maisons sur des zones qui sont isolées, là on parle par exemple de la province de Taffea qui se trouve dans le sud de l'archipel, hein, qui comprend à peu près 80 îles, les actions de reconstruction peuvent prendre du temps. Et donc on a plutôt décidé d'accompagner ces communautés pour les aider en fait à se redresser, à reconstruire par eux-mêmes, plutôt par des actions de formation, d'accompagnement en termes d'appui technique, et aussi en incluant notamment les femmes qui sont souvent amenées à prendre des rôles de chef de ménage pour un certain nombre de raisons, à prendre beaucoup plus de leadership pour être acteur principal de leur reconstruction, de leur recouvrement. Tout ça est fait en coordination, bien sûr, avec les différentes autorités, les parties prenantes dans le cadre de ces actions.
Et d'après ce que j'ai lu aussi, dans les communautés insulaires rurales, il y aurait un taux élevé de violences domestiques, c'est ça?
Alors ça fait partie du contexte. Effectivement, le Vanuatu est sujet à beaucoup de violences domestiques et sexuelles. On peut considérer qu'il y a une fille sur trois qui va être abusée sexuellement avant 15 ans. On avait à peu près 60% de prévalence de violences sexuelles sur l'archipel. Donc ça fait partie du contexte. Donc ça fait partie des actions que nous menons au niveau de CARE pour appuyer les femmes et pour restaurer un dialogue et transformer les relations entre les hommes et les femmes. Les femmes sont aussi souvent assez exclues des opportunités en termes d'éducation ou professionnelle, notamment dues aux migrations masculines dans les pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et il y a beaucoup de foyers monoparentaux féminins qui en résulte de par ces deux contextes. Et donc, ce qui amène les femmes à jouer un rôle plus important, notamment dans des secteurs où traditionnellement sont plutôt masculins, comme justement les abris, le shelter ou l'agriculture.
Parlez un petit peu de la présence de CARE au Vanuatu. D'après ce que je comprends, ça date depuis plusieurs années maintenant.
Alors, nous sommes présents depuis 2008 au Vanuatu, et dès le départ, nous avons focalisé nos actions et notre stratégie sur la réponse humanitaire et la résilience, mais également thématique de promouvoir une approche plus équitable entre les hommes et les femmes en termes de genre, en termes de relations, et de transformer les relations et au cœur, je dirais, de notre mandat et de nos actions, et également qui se traduisent par des actions en termes de développement économique, de gouvernance, c'est-à-dire de travailler avec les autorités et les communautés. On est dans une zone qui est assez diverse. On a une centaine de langages différents et vernaculaires au niveau du Vanuatu, des zones qui sont très isolées. Donc, c'est tout un contexte sur lequel nous travaillons depuis 2008. Et de manière intégrée, c'est-à-dire que la question des risques climatiques est intégrée dans toutes les actions que nous menons, de manière à ce que chaque élément se renforce un petit peu mutuellement dans les actions et les projets que nous menons.
Globalement, vous êtes satisfait, j'imagine, des principales réalisations de ce projet géré par CARE Vanuatu?
Nous sommes très honoré d'être récompensé pour ce travail, parce que c'est récompensé pour un projet que nous avons mené dans le cadre de ce cyclone, mais en fait il valide un engagement qui a été commencé en fait il y a une dizaine d'années avec la réponse à un autre cyclone Pam, qui avait dévasté aussi le Vanuatu à l'époque, et qui valide aussi notre approche de centrer vraiment au niveau des communautés. C'est une approche aussi qui est très économique, parce qu'en fait, avec peu de moyens, on peut faire beaucoup. Avec 100 dollars environ qui ont été investis pour quelques intrants techniques, des outils et des formations, on a pu appuyer beaucoup de personnes. Au total, on a appuyé près de 9000 personnes dans le cadre de cette réponse. Et donc, c'est un petit peu l'opportunité d'avoir des actions économiques, mais aussi des actions qui intègrent ces dimensions de genre, de relations entre les hommes et les femmes, et d'apporter, je dirais, des éléments de transformation, d'évolution dans les dialogues hommes-femmes, dans un contexte où le Vanuatu restera affecté par ces aléas climatiques, mais nous pouvons collectivement changer l'approche que nous pouvons mener, travailler vraiment directement avec les communautés et les acteurs affectés, et avec des actions qui sont pertinentes et durables dans le temps, parce que cette approche nous permet aussi de faire école. Et c'est quelque chose qu'on veut valider et capitaliser dans le cadre de cette récompense, pour promouvoir justement des approches économiques et qui permettent de faire d'une pierre plusieurs coups, si je puis dire.
Et pour les gens qui nous écoutent, s'ils ne le savent pas, c'est les 83 îles de l'archipel, d'après ce que je comprends, sont d'origine volcanique.
Alors, il y a un certain nombre de volcans qui sont actifs au Vanuatu, donc avec des cycles d'activité qui varient. Et on a apporté des réponses parfois où on a des événements où vous avez un cyclone qui va être combiné avec une éruption ou une activité volcanique. Donc, on intègre en fait un peu une approche multirisque. On est aussi, le Vanuatu était aussi sujet à un tremblement de terre en 2024. Et donc, c'est toute cette approche intégrée qui doit être prise en compte pour permettre aux communautés d'être résilientes. Et on utilise beaucoup le terme de résilience, mais on pourrait le définir simplement comme la capacité de faire face, de s'adapter, mais aussi de se transformer face à des crises et des chocs. Et un peu ce projet est une démonstration qu'on peut avoir des approches assez simples, pas simplistes, mais qui permettent d'avoir un impact durable et réplicable, notamment pour si une crise affectait d'autres zones de l'archipel du Vanuatu.
Et j'imagine que Care Vanuatu est en train de travailler sur d'autres projets pour 2026.
Alors, nous sommes déjà dans la période des cyclones, donc on invite aussi vos auditeurs, s'ils veulent nous aider à contribuer aux réponses, avec notamment ce type de réponse, avec peu, on peut faire beaucoup. Donc, vous pouvez regarder sur le site de Care Australie si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, littéralement, dans le cadre des réponses. Ce que nous souhaitons aussi, c'est dans le cadre de cette récompense, c'est vraiment de capitaliser, de valider, d'institutionnaliser, vraiment de promouvoir ce type d'approche, peut-être d'explorer des partenariats, notamment avec des acteurs du secteur privé dans le domaine justement de la reconstruction, qui pourraient être partenaires de ces réponses, parce que on montre vraiment que c'est des partenariats qui peuvent être très stratégiques et très très économiques, et donc ce sont des actions que nous allons mener effectivement dans le cadre de ce coup de projecteur sur le Vanuatu et sur ce type d'approche qui nous semble très stratégique, notamment dans un contexte où chacun sait qu'il y a eu énormément de coupes budgétaires au niveau mondial sur les réponses humanitaires et aussi de développement. Et donc, ça nous invite aussi à vraiment se focaliser sur des approches beaucoup plus économiques et stratégiques. Et celle-ci en fait partie. Et donc, ça va faire partie de notre approche pour vraiment promouvoir et inviter d'autres à adopter ce type d'approche également.
Merci à vous, Sébastien Fesneau. Et je rappelle que vous êtes le directeur de Care Vanuatu. Merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Merci à vous. Merci de votre invitation.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Si on reconsidère les choses, je ne suis pas ton idéal. Écoute ce que je te propose, descends-moi. Je suis toute la femme, tu vois, toute la femme de ta vie.
La chanson « Toutes les femmes de ta vie », vous connaissez sûrement la version des L5. Eh bien, voici la version de Julien Doré. On continue nos programmes de la rentrée avec l'Alliance française d'Adélaïde. Juste avant, vous avez entendu celle de Sydney. Et demain, vous entendrez celle de Perth. Alors, que réserve l'Alliance française d'Adélaïde pour la rentrée? Réponse maintenant.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Anne-Lise Zénin, qui est la directrice de l'Alliance française d'Adélaïde. Bonjour à vous et bienvenue sur SBS en français.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année.
Et meilleurs vœux pour l'Alliance à Adélaïde en 2026.
Merci beaucoup pour votre programme aussi.
Merci. Anne-Lise, on commence peut-être par la rentrée chez vous avec les summer courses qui ont lieu en ce moment, j'imagine.
Oui, alors en fait, on a un petit peu changé notre façon de faire. Donc, c'est effectivement des cours d'été, mais c'est une session normale. En fait, on a anticipé notre rentrée pour commencer plus tôt, parce que cette année, nous allons faire 5 sessions dans l'année.
C'est formidable. Donc, les cours ont déjà repris chez vous.
Exactement, nous avons repris lundi
12.
Pour les adultes uniquement. On attend le trimestre scolaire pour les enfants, évidemment.
On pourrait peut-être maintenant parler des événements culturels de 2026 qui vont revenir bientôt. Je pense au club de lecture, le ciné-club, le book-club.
Exactement. Alors le Ciné-Club, on recommence le 29 janvier. Donc on est toujours en partenariat avec le cinéma Mercury, ce qui permet d'offrir une belle expérience de cinéma. Et on commence l'année avec le film La Haine, donc qui est déjà un classique français.
Absolument, donc sur le grand écran.
Exactement, tout à fait. Et ensuite, on retrouvera le premier qui reprend, ce sont les Cafés Croissants, qui reprennent le 30 janvier, donc juste le lendemain, toujours à Market Street Café, dans Adélaïde. Et puis les autres reprendront progressivement. Le Club de Conversation ne reprend que la deuxième semaine de février, donc ce sera le 9.
Ouais.
Pour le club de lecture, il continue pour le premier club de lecture, pardon, il termine avec Veiller sur elle, parce qu'il n'avait lu que la moitié, donc en décembre, et on attend le reste de la sélection par notre volontaire qui est allé s'approvisionner en France.
Et j'imagine aussi que les conférences, les apéros scientifiques reviendront graduellement.
Voilà, graduellement. En général, on est plutôt calme en début d'année à Adélaïde parce qu'on se prépare pour notre grand événement qui est l'Alliance Française French Film Festival, qui reviendra. Donc nous ouvrons notre cérémonie d'ouverture est le 18 mars.
Ouais.
Voilà, et ensuite on fait reprendre les apéros scientifiques, les conférences après tout ça.
Et on fait un save the date. J'ai vu sur votre site que vous avez les Immersive Bites en mai prochain. Vous pouvez nous expliquer tout ça?
Ouais. Donc c'est en fait on organise Immersive Bites dans le cadre de Tasting Australia, donc qui est un grand événement de 10 jours consacré à la gastronomie. Et nous à l'Alliance, on propose une expérience un petit peu atypique, puisque on mêle réalité virtuelle. Donc on va suivre deux chefs dans un parcours de réalité virtuelle, et en même temps, en fait, on propose des petites bouchées et des boissons qui s'harmonisent et qui sont en lien évidemment avec ce qu'on voit en réalité virtuelle. Donc c'est vraiment une expérience culinaire.
Autre message que vous aimeriez peut-être lancer pour 2026, je pense peut-être à ces gens qui aimeraient venir découvrir et apprendre le français à Adélaïde.
Tout à fait. Bah les portes sont toujours ouvertes à tout le monde, peu importe le niveau, que vous soyez débutant ou avancé. Vous pouvez d'ailleurs, si vous ne connaissez pas votre niveau, faire un test de placement qui nous permettra de vous orienter parmi tous nos cours. Et voilà, on est là toute l'année avec des sessions plus régulières en plus cette année. Donc si jamais vous loupez cette rentrée, pas de problème, il y en aura une autre juste derrière en mars. Donc voilà, venez nombreux à nos événements et à nos cours.
Et donc toutes les informations également sur le site de l'Alliance Française d'Adélaïde.
Tout à fait, www.af.org.au. Pardon.
Merci beaucoup Annelise et à très bientôt sur SBS en français.
À très bientôt, merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire des espoirs cachés au fond de moi? Oui, je suis mal aimé, c'est vrai, je suis le mal aimé.
Claude François, Le Mal Aimé, chanson revenue au goût du jour après la célèbre publicité où on voit un loup mal aimé, donc qui essaie d'apprendre à mieux manger. C'est la fin de cette émission, messieurs, dames, merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est demain, même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer un très bon samedi après-midi. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.